Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour l'heure du carillon, cette émission mensuelle animée par des chrétiens du Villefranchois pour aborder plusieurs questions de tout ordre qui nous occupent et qui font la vie de notre pays. Alors, autour de cette table, comme d'habitude, les animateurs de l'émission, Bernard.
Alors, Bernard Lauriac, un prof d'histoire et géographie à la retraite, passionné par ces émissions de radio.
Émilie.
Bonjour, je suis Émilie, infirmière à l'hôpital de Villefranche, et je suis très heureuse de vous retrouver sur CFM 90.2.
Et puis moi, Didier, donc, prêtre à Villeneuve pour le Villefranchois, et donc pour la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Cos à Villeneuve. Alors, pour cette reprise, nous allons évoquer ce matin un sujet qui parle au cœur de nombreux Villefranchois. En effet, tout le monde connaît, dans le Villefranchois, Émilie de Roda. Et nous allons entrer dans une grande célébration du 200e anniversaire de la fondation de la Congrégation de la Sainte Famille. Pour parler de cette fondation, eh bien, nous avons invité ce matin Sœur Dominique.
Sœur Dominique, je suis la responsable de la Congrégation de la Sainte Famille, fondée par Sainte Émilie.
Et nous avons invité aussi Sœur Marie-Josée.
Sœur Marie-Josée, je suis brésilienne. Je suis en France depuis 10 ans au service de la congrégation à Villefranche de Rouergue.
Et vient de nous rejoindre autour de la table notre quatrième animateur intervenant, Michel.
Oui, bonjour, Michel Membressous. Eh bien, à tout de suite.
Voilà. Donc, si vous voulez, on va essayer de voir un peu cette figure d'Émilie. Et pour commencer, nous allons nous plonger dans l'histoire avec Bernard, qui va nous rappeler un peu le contexte, la naissance, la vie. Et puis, au fur et à mesure, on avancera pour découvrir le visage de l'Émilie d'hier jusqu'à l'Émilie d'aujourd'hui. Bernard, c'est à toi.
Oui, alors, Émilie de Roda est née en 1787, donc 2 ans avant la révolution de 1789, et elle a vécu essentiellement dans la première moitié du 19e siècle, c'est-à-dire dans une période de crise triple, crise politique, puisque on est passé de la monarchie absolue à la République, puis ensuite à l'Empire, puis il y a eu la Restauration. Donc 1789, 1830, 1848, trois révolutions qui ont marqué la France à l'époque. Crise de l'Église, puisque il y a eu cette affaire de la Constitution civile du clergé qui a cassé l'Église en deux, il y avait les jureurs et les réfractaires, et il y a eu aussi une période de déchristianisation qui a été quand même pendant 7 ans, de 92 à 80, de 90 à 97, quand même qui a marqué l'Aveyron, qui elle est restée fidèle en gros à la religion traditionnelle. Et puis il y a eu aussi une crise économique, puisque l'Aveyron a connu dans la région du bassin houillé de Decazeville une révolution industrielle, la naissance d'un prolétariat ouvrier qui a vécu dans des conditions terribles. Je voudrais parler surtout de cette crise de l'Église, parce que Émilie, donc, est née dans une famille aristocratique. Son père, enfin, il y a deux branches. Hein. Il y a les deux Pomérol, qui étaient de Villefranche de Rouergue, et puis il y a les deux Roda, qui étaient des environs de Rodez, exactement, de Druel. Donc, c'était une famille de châtelains, il faut bien dire les choses comme elles sont. Mais Émilie, quand ses parents ont vu que la révolution dérapait, ils ont confié Émilie au château de Ginals, qui était dans une région quand même où la révolution était plus modérée, et donc elle a été élevée par sa grand-mère. Donc jusqu'à pratiquement jusqu'à 16 ans, elle a vécu surtout au château de Ginals. Elle a fait aussi quelques, elle est partie à Druel également, mais donc c'était une fille de la noblesse qui, à un moment donné, a été un peu séduite par la vie mondaine. Lors d'un mariage, elle a connu un beau jeune homme. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et à 16 ans, elle a découvert Jésus-Christ. Et elle a dit, je consacrerai ma vie à Jésus-Christ. Donc il y a eu un tournant très 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 important. Alors moi, ce qui m'a frappé dans la vie d'Émilie, dans les débuts de d'Émilie, c'est que elle a coupé en quelque sorte avec ce milieu de la noblesse qui était quand même très éduquée. Elle a coupé avec ce milieu parce qu'elle s'est rendue compte en étant dans l'école. Une école tenue par une ancienne bonne sœur parce qu'à l'époque-là, on avait fini avec les vœux religieux, on avait chassé souvent les religieuses de leur couvent, et donc dans cette école, elle a vu que c'était les filles qui pouvaient payer qui allaient à l'école, et elle a dit, je veux être l'institutrice des pauvres. Donc, et elle a fondé à la maison Alric, dans une maison presque insalubre. Hein, elle a fondé la première école pour les filles qui pouvaient pas payer, pour les filles des milieux humbles. Donc ça a été quand même un tournant. Là, elle a vu des femmes qui lui ont dit, avant la révolution, il y avait des sœurs qui nous éduquaient et nos enfants, elles auront aucune éducation. Parce qu'à cette époque-là, il faut bien le dire, la République s'occupait pas tellement des filles. C'était les garçons qui étaient privilégiés. Et elle a compris que ces filles, elles avaient besoin d'une éducation solide, apprendre à lire, à écrire, apprendre la géographie, l'histoire, mais aussi effectivement le catéchisme, ce qu'avait été Jésus dans la période où il a vécu en Palestine. Donc c'est ça qu'il a en quelque sorte transformé. Et elle a voulu dépasser cette école du Villefranchois en fondant des écoles rurales d'abord, hein, dans à Cadour, à La Nuéjouls. Et puis ensuite, elle s'est orientée aussi vers les villes, vers Figeac, elle a découvert progressivement que se développaient des mines, c'était ce qu'on appelait les mines de La Salle, à côté d'Aubin, et là, elle a découvert ce monde ouvrier. Et ça a été une révélation, elle quand même, qui avait vécu dans sa jeunesse dans un château, elle a découvert la misère du prolétariat ouvrier. Et ça, je crois que c'est important. Je voudrais citer ce qu'elle écrit à la supérieure
voilà, je fais un petit résumé de ce que tu as dit, si tu veux, et puis comme ça tu reprends ton souffle, voilà, un peu. Donc si je comprends bien, la révolution a chassé les congrégations religieuses, dont une congrégation, ici on peut dire les Ursulines, mais peu importe, s'occupait des filles pauvres qui n'avaient pas les moyens de se payer l'école, alors que l'école était payante, et surtout pour les filles de bonne famille. Et à partir de là, Émilie a été sensibilisée à ça, et elle a fondé donc ces écoles, cette première école, et un peu partout dans le pays, en allant jusqu'aux villes, parce que, comme dit le Concile Vatican II, elle l'a déjà fait avant, il faut savoir lire les signes des temps. Et les signes des temps, c'était l'industrialisation dans le bassin, là-bas, et donc avec les nouveaux problèmes qui se posaient. Ça va,
C'est exactement ça. Oui, bon, oui, voilà. Tout à fait.
Allez, continue donc, alors.
Tout à fait. Alors, je prends une de ses lettres, écrite le 5 août 1830 à la supérieure d'Aubin. « Vous me dites que vous ne savez rien, ni nous non plus, sinon le changement de gouvernement qui a eu lieu après un choc très violent entre la garnison de Paris et la garde nationale. Celle-ci a eu le dessus et a choisi le duc d'Orléans provisoirement. On ne sait pas trop où est le roi. On dit qu'il est sorti de France, ainsi que la famille royale et les ministres. Ici, le drapeau tricolore flotte sur le haut du clocher. On crie « à bas la religion, à bas les prêtres, à bas les couvents ». Mais on ne fait de mal à personne et nous espérons que l'on se contentera de crier. » Donc, voilà ce qu'écrit Émilie. Et elle écrit aussi, dans une deuxième lettre aux sœurs de Villefranche, « Les sujets de méditation ne manquent pas ici. Ces pauvres ouvriers, ça c'est 19 août 34, qui se brûlent tout vivants, nous font rougir de notre lâcheté. Ils pourraient gagner leur vie d'une autre manière, mais parce qu'ils ont 7 à 8 francs par jour, ils restent toute la nuit ou toute la journée, selon qu'ils sont de tour à la bouche de cette fournaise où ils ont tant de chaleur. Il y en a qui sont obligés de boire une si grande quantité de tisane rafraîchissante qu'on leur emporte un litre chaque heure, mais malgré cela, ils abrègent leur jour. » Et je me permets de... Pour décrire cette situation du monde ouvrier, je me permets d'écrire un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Aubin », tout simplement. « Quel âge as-tu ? 16 ans. De quel pays es-tu ? D'Aubin. N'est-ce pas là, dis-moi, qu'on s'est battu ? On ne s'est pas battu, l'on a tué. La mine prospérait, quel était son produit ? La famine. Oui, je sais, le mineur... vit sans terre et n'a rien. Avec la nuit en plus, il est un galérien. Mais toi, fais-tu donc ce travail, jeune fille ? Avec tout mon village et toute ma famille, oui, pour chaque beauté, on me donnait un sou. Mon grand-père était mort, tué du feu grisou. Mon petit frère était boiteux d'un coup de pierre. Nous étions tous mineurs. Lui, mon père, ma mère, moi, l'ouvrage était très dur. Le chef n'était pas bon. On travaille à genoux dans le puits. C'est glissant. Il pleut. Quoi qu'on n'ait pas de ciel, on est sous l'arche d'un caveau bas. Et tant qu'on peut marcher, on marche. Après, on rampe. On est dans une eau noire. Il faut étayer le plafond s'il y a quelques défauts. Je m'arrête.
Voilà. Donc, on comprend bien que cette période était très troublée. Et il y avait beaucoup de pauvreté, même probablement plus qu'aujourd'hui. Et sans les mêmes moyens pour la combattre. Et donc, Émilie, en 1816, fonde cette congrégation à la fois pour l'éducation des filles, mais aussi pour la prière. Et on en parlera après pour parler de deux aspects de cette congrégation au service du monde et dans le monde et au service de la prière par la contemplation. On écoute une petite musique, un chant des moines de Tamier qui nous fait rentrer dans cette dimension de la prière.
Et notre cœur est sans repos. cœur veille, j'entends le Seigneur qui m'appelle. Ouvre-moi, mon ami, tu nous appelles.
Voilà donc, nous revenons avec Émilie et nous allons essayer un petit peu plusieurs choses. D'abord de définir un petit peu qui elle était. Elle vient de cette famille donc de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Elle est confrontée à ce milieu très populaire, ouvrier, et cela la touche. Et donc, je me tourne vers Sœur Dominique pour lui demander, j'ai lu, parce que j'ai un peu lu sur Émilie quand même, j'ai lu qu'il y avait au départ à la fois une branche active, donc qui s'occupait de l'enseignement des jeunes filles et tout ça, et une branche contemplative, c'est-à-dire comme des moniales, comme au Carmel ou comme ça, voilà, et dans la congrégation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, au début, il n'y avait pas les deux branches. Au début, il y avait simplement la branche contemplative, parce que à ce moment-là, les sœurs ne sortait pas. Et en fait, Sainte Émilie a été très marquée par l'éducation de sa grand-mère. Et elle dit, Émilie, à un moment, je suis d'une famille de saints. Ce qui veut dire qu'elle a été élevée, toute petite, dans l'amour du Christ. Mais, Sainte Émilie a vécu aussi à Ginas avec une tante qui était visitandine, chassée de son couvent par la Révolution, comme l'a dit Bernard. Donc, elle a été marquée par cet esprit. Et à ce moment-là, les sœurs étaient cloîtrées. Sainte Émilie était une passionnée. Elle avait la passion pour Dieu et la passion pour les pauvres. Alors, la passion pour Dieu, elle a été élevée, comme je l'ai dit, dans une famille chrétienne. Après, elle s'est un peu éloignée de Dieu. Elle dit elle-même qu'elle a vécu sans recevoir les sacrements et qu'elle n'en éprouvait aucun remords. Et puis, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, tout d'un coup, en 1804, elle a été saisie par Dieu. Et à partir de là, elle a dit « Je donnerai ma vie à Dieu » parce qu'elle se sentait appelée. Mais ça a été très dur pour elle de trouver sa vocation, elle a fait plusieurs essais, et ce qui est très très beau dans la vie d'Émilie, c'est que sa vocation, elle l'a découverte chez les pauvres. On a raconté les circonstances tout à l'heure. Donc, elle a ouvert cette école, les enfants ou les jeunes venaient à l'école, mais il y avait des sœurs tourières, c'est-à-dire les sœurs qui sortaient du couvent et qui ne restaient pas toujours à l'intérieur comme faisait Émilie avec un certain nombre de sœurs. Et ces sœurs tourières racontaient à Émilie les souffrances qu'elle rencontrait en ville. Et chaque fois qu'Émilie se rendait compte qu'il y avait un besoin, elle disait à ses sœurs, il faut répondre à ce besoin. Et c'est ainsi que des sœurs se sont occupées des prisonniers. Là, il y aurait beaucoup de choses intéressantes à raconter, mais on n'a pas le temps. Elle s'est occupée des prisonniers, elle s'est occupée des jeunes qui traînaient dans la rue et qui étaient victimes de beaucoup de choses négatives. Elle a ouvert un bon pasteur. Et puis, des sœurs, les sœurs d'Aubin, sont allées jusqu'à De Casseville, à Via La Reille, et là, elles se sont rendues compte de la misère dans laquelle vivaient les familles des ouvriers. On a entendu des textes tout à l'heure. Et elle a décidé, c'était en 1834, elle a décidé qu'il ne suffisait pas de recevoir les enfants dans l'école, dans le couvent, mais qu'il fallait que les sœurs sortent à la rencontre des enfants et établissent des écoles à l'extérieur des couvents. Et c'est là qu'il y a eu une école à De Casseville, à Vialarel, et une autre à La Soude, dans l'Aveyron, toujours, ce sont les deux premières écoles. Et à partir de là est née la branche des sœurs des écoles. Il y a eu beaucoup de problèmes, d'ailleurs, entre les sœurs des écoles, les sœurs qui restaient à l'intérieur. Mais finalement, ce que voulait Sainte Émilie, c'était que elle et ses sœurs vivent à la fois un amour passionné pour Dieu et pour les pauvres.
Merci. Voilà. Alors, je vais vous faire sourire un petit peu parce que tu parles de sœur Tourière. Alors, les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est qu'encore que cette combine? Eh bien, pour comprendre ce que sont les sœurs Tourière, quand vous allez, je fais de la pub pour personne, mais quand vous allez au Leclerc, vous rentrez par une grande porte qui tourne et qui vous permet de l'extérieur d'aller à l'intérieur et de l'intérieur d'aller à l'extérieur. Eh bien, dans les couvents, il y avait comme ça un tour plus petit où les sœurs recevaient et partaient. Et c'est pour ça qu'on les appelle les sœurs Tourière. Elles recevaient, elles pouvaient donner, et c'était aussi la porte pour passer de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Voilà le nom de Tourière. Oui, Émilie.
Alors, quand j'entends évoquer la vie de Sainte Émilie, je me dis, mais finalement, c'était une disciple missionnaire. C'est bien ça?
Oui, absolument.
On en parle beaucoup dans l'Église actuellement, des disciples missionnaires.
Oui, oui, et je crois que c'est un terme qu'elle aurait apprécié et qu'elle nous aurait dit quand elle écrivait, quand elle parlait aux sœurs.
Alors, on parlait des combats d'Émilie au début. Je crois aussi avoir lu qu'il y a eu aussi, comme beaucoup de grands saints et de grands acteurs comme ça, du christianisme concret, elle a eu aussi un peu une nuit de la foi qui l'a quittée un peu avant sa mort, et elle s'est posé bien des questions par rapport à ça. Tu peux en dire un mot? Tu souhaites en dire un mot?
Oui, ça c'est vraiment une souffrance terrible qu'a vécue Sainte Émilie. Pendant 32 ans, elle s'est crue abandonnée de Dieu. Et elle a des paroles très fortes. Ma foi a été détruite. Quant à l'espérance, elle n'existait plus. Je me croyais perdue. C'est très, très fort. Et elle dit que cette nuit de la foi, elle l'a vécue pendant donc 32 ans. Quand elle faisait une fondation, généralement, elle vivait la fondation avec plus de paix dans son cœur. Et puis, ses tentations contre la foi sont restées jusqu'à sa mort, peu de temps avant sa mort. Mais son confesseur, le père Antoine Marty, qui était vicaire général du diocèse de Cahors, lui demandait de ne rien faire paraître à l'extérieur. Ce qui fait que lorsque ses sœurs, après sa mort, ont appris qu'elle avait vécu dans une telle obscurité, elle n'en revenait pas, parce que Sainte-Émilie était toujours joyeuse et souriante.
Mais vous attribuez à quoi cette nuit de la foi que l'on retrouve chez d'autres, par exemple Mère Teresa, et est-ce que c'est porteur de quelque chose? Vous répondez quoi?
Moi, je dirais qu'elle n'est pas la seule, ça c'est sûr. Je pense que Sainte-Émilie, comme Mère Teresa, comme d'autres, ils sont nombreux, elle avait tout donné à Dieu et Dieu lui a demandé tout jusqu'à l'impossible. Elle disait, Sainte-Émilie, mais en parlant de mission, elle disait, il faut aller jusqu'à l'impossible. Et peut-être que Dieu, moi je suis pas dans le secret du Seigneur, mais peut-être que Dieu qui voyait en Sainte-Émilie et dans d'autres une telle confiance, une telle foi, a éprouvé jusqu'au bout cette foi, l'a purifiée, l'a rapprochée de lui.
Mais justement, moi, je suis frappé par l'abnégation de tous ceux qui donnent leur vie, et on est entouré de personnes qui ont fait ça. De nos jours, c'est peu ce qui est la réponse à l'appel. On comprend même pas, on ne connaît même pas l'appel qu'il peut y avoir du Seigneur dans les cœurs. Mais vous qui l'avez connu, ça, moi, je trouve que vous avez à nous dire ce qu'il en est, comment vous avez répondu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est un exemple merveilleux de donner sa vie pour les autres au nom du Christ. C'est quelque chose qui n'est pas de nos jours, mais qui a existé, et qui peut-être il serait bon de redécouvrir.
Qui n'est pas de nos jours. Je pense que aujourd'hui aussi, il y a des jeunes qui appellent, des jeunes et des moins jeunes. Le Seigneur appelle toujours. Mais je crois qu'il n'appelle pas qu'à la vie religieuse. La vie religieuse s'enracine dans le baptême. C'est à partir du baptême. C'est est mise en nous au baptême cette graine de disciples missionnaires, comme disait Émilie. Donc, pourquoi aujourd'hui on dirait que le Seigneur n'appelle plus? Je pense qu'il appelle, mais je crois aussi, et je pense que Marie-Josée en parlera, il faut pas non plus réduire l'Église à l'Europe, à la France, ni à l'Europe. Le Seigneur continue d'appeler et des jeunes continuent de répondre, mais peut-être que nous aussi on n'est pas assez appelants, peut-être que nous aussi on n'a pas cette, je sais pas comment dire, vous dites une vie toute donnée, on voudrait qu'elle soit donnée, mais si je regarde Sainte-Émilie, on est loin d'elle, même si c'est notre aîné dans la congrégation, on est loin. Et quelquefois, je me dis, mon Dieu, Sainte-Émilie, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu ferais? Et je me dis toujours, mon Dieu, elle est toujours au-delà, au-delà. Elle appelle, comme le Christ, toujours plus loin. Oui.
Dans ce que tu dis, c'est vrai que toujours, d'abord notre vocation, je reprends ce que tu dis Dominique, dans notre vocation, on est baptisé. Ça c'est, on est baptisé. Et c'est à partir de notre baptême que Dieu nous offre des chemins que l'on prend, alors parfois avec hésitation, et moi je pourrais le dire pour ma vie, avec hésitation, avec réticence. Et puis on s'aperçoit que la seule chose qui nous fait grandir, c'est de donner. C'est de donner. Toujours de donner. Mais c'est vrai pour un papa, c'est vrai pour un grand-père, c'est vrai, c'est quand tu donnes que tu grandis. C'est vrai pour un célibataire. Alors c'était vrai pour Émilie, alors maintenant, les chemins sont parfois variés. On vient de voir, pardonnez-moi, on revient à notre sujet, parce que ça pourrait faire tout un sujet, la vocation baptismale, mais on revient à notre sujet, c'est-à-dire Émilie qui a connu le temps de l'épreuve et de la purification, parce que l'épreuve et la purification vont ensemble souvent, hein, voilà, hein. Il faut éprouver pour purifier, hein, mais c'est vrai pour tout. Donc, on revient à Émilie qui a connu ce temps-là, et donc on a vu un petit peu comment ici, on pourrait aller beaucoup plus loin, les choses ont commencé à se mettre en place, mais très vite, c'est venu aussi à l'extérieur parce que l'Église n'est pas que française, l'Église n'est pas que romaine, l'Église n'est pas qu'européenne. Aujourd'hui, le message du Christ est pour tous, sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures. Alors, on va s'ouvrir avec la deuxième musique un peu à d'autres cultures et puis on partira en mission.
Pampas heladas, tantos jordinos, a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo,
del aire,
si ninguno te aloja,
¿dónde
naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Présteme una tapera
para mi niño.
A la huella, soles y lunas. Los ojitos de almendra, piel de aceituna.
Voilà, donc avec cette petite alouette qui s'envole, nous aussi on va s'envoler avec Émilie au-delà des mers. Et assez tôt, mais enfin, sœur Dominique va en parler avec sœur Marie-Josée, parce que quand on va aujourd'hui dans la communauté, on s'aperçoit qu'il y a des sœurs libanaises, des sœurs portugaises, des sœurs brésiliennes, des sœurs espagnoles, enfin, il y en a un peu de tout. Il y a des sœurs africaines, alors je vais pas dire, et voilà. Donc il y a des sœurs d'un peu partout. Et donc, ça veut dire que, eh bien, la congrégation de la Sainte Famille a connu aussi, au début du XXe siècle, comme beaucoup, une expansion missionnaire. Voilà, donc Dominique, à toi avec Marie-Josée.
Voilà. Sainte Émilie disait à ses sœurs, aux premières sœurs, « Il faut que notre charité franchisse les mers ». Et en 1894, c'est-à-dire quand même bien après la mort de Sainte Émilie, les premières sœurs sont parties au Proche-Orient. À Beyrouth, c'est un évêque maronite qui les avait appelées. Puis, ensuite, c'est au Brésil, en 1902, que des sœurs ont été appelées. Sœur Marie-Josée va vous raconter les circonstances. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que grâce, je dis grâce parce que c'est vrai, grâce à tout ce qui s'est passé en 1905, les sœurs ne pouvaient plus enseigner et cela a permis une expansion de la congrégation dans les pays voisins, c'est-à-dire en Espagne, en Angleterre, en Belgique, après on est allé en Italie. Et en fait, ce qui pouvait apparaître comme une catastrophe s'est révélé pour nous comme un chemin de lumière. Alors je crois que Marie-Josée peut raconter des choses au niveau du Brésil, la deuxième fondation hors France de la congrégation.
Bon, voilà, au Brésil, comment les sœurs sont parties au Brésil? Il y avait au Brésil, dans le nord-est, à Pernambuco, c'est la pointe là, de la côte quand on rentre, il y avait une famille française, la famille Collier, qui était partie au Brésil, et ils ont créé une usine de fabrication de tissus dans une banlieue de Recife, qui c'est une grande ville, et ils avaient beaucoup d'ouvriers, des gens, de parents, des familles qui travaillaient dans cette grande usine. Et après un moment, ils voulaient mettre en pratique la doctrine sociale de l'Église du pape Léon XIII. C'était à cette époque qu'ils ont dit qu'il faut créer une école pour les enfants des ouvriers. Ça veut dire les enfants les plus pauvres. Et ils ne savaient pas où trouver des sœurs. Alors, ils ont rencontré, ils sont venus en France, parce que c'est une famille française. Ils ont rencontré les frères maristes qui étaient déjà au Brésil. Et ils ont indiqué le sœur de la Sainte Famille de Villefranche-de-Rouergue. Et c'est comme ça qu'en contact avec la supérieure générale de cette époque, les sœurs sont parties au Brésil. Elles étaient sept. Elles ont parti en bateau. Et d'après ce qu'on lit dans les archives, elles ont passé un mois pour arriver là-bas. Alors elles sont arrivées et elles sont allées à Camaragibe. À cette époque, c'était une banlieue de Recife très pauvres, et c'est là qu'elles se sont insérées dans cette école avec les enfants et les familles ouvrières de cette usine.
Est-ce qu'aujourd'hui, en Amérique latine, donc au Brésil, est-ce qu'à partir de là, ça a un petit peu germé partout? Et est-ce qu'il y a eu d'autres pays en Amérique latine qui ont reçu aussi des sœurs? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'en Philippines, aux Philippines, pardon.
Voilà. Oui, oui. Et après, bon, elles se sont installées à Camaragibe en 1902. Et l'année d'après, elles ont dit, mais ce monsieur avait encore une autre usine de canne à sucre un peu plus loin. Et quelques-unes sont parties là-bas aussi pour soigner les enfants plus pauvres. Voilà, et après au Brésil, ça, après plus tard, on a créé des grandes écoles, mais on a gardé toujours cet esprit de Sainte-Émilie. Et mais je vais continuer encore à parler, je pense, de Camaragibe, parce qu'aujourd'hui, cette école de Camaragibe, c'est une école publique, parce que les choses ont avancé. Camaragibe a grandi, c'est plus une banlieue, c'est une ville. Mais le cerf reste toujours là, dans cette maison que nous appelons la maison mère du Brésil. Et dans cette maison, c'est la maison du noviciat, la maison de formation, où nous avons des jeunes qui sont là avec une communauté de trois sœurs, une française, l'unique française que nous avons encore, deux sœurs brésiliennes. Et là, nous avons deux novices, deux postulantes et quelques jeunes qui nous regardent. Bon, ça, c'est par rapport au Brésil. Je ne sais pas
si. Et ailleurs, en Argentine.
Et après, nous sommes partis, les sœurs sont partis en Bolivie.
En Bolivie.
Voilà. En Bolivie, elles sont parties en 1957.
Ah oui.
Oui.
Donc c'est assez récent, oui.
Oui, oui, oui. Elles sont parties à partir de l'appel du Pie XII en faveur des missions. Voilà, premier départ de Serres pour la Bolivie, et c'était au même moment pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire et au Sénégal, dans cette même époque. L'Amérique latine et l'Afrique.
Voilà, donc chers amis, j'ai oublié de le dire, et puis on me fait signe, on est bien sur 90.2 CFM Radio, l'heure du carillon, donc je le dis maintenant. Et dans ce que tu as dit, plusieurs choses ont été abordées, mais je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, tu as parlé d'un évêque maronite.
Non.
Voilà, c'est toi, c'est... Dominique. Alors, Saint Maron, c'est un saint du Liban, qui a beaucoup évangélisé dans le Liban et qui a donné un courant religieux, mais en lien avec l'Église, et puis un rite, avec voilà un rite, une culture religieuse, et qu'on a appelé les Maronites. Voilà. Donc, mais ils appartiennent, ils sont rattachés à Rome. Et voilà. Donc, et ça c'est pour parler des Maronites. Ensuite, tu as parlé de Léon XIII. C'est vrai que Léon XIII, ça a été le premier pape à écrire ce qu'on a appelé une encyclique sociale. Une encyclique sociale, c'est-à-dire qui voulait dire quelle était la place des chrétiens et comment le christianisme pouvait éclairer la marche des chrétiens dans la société, dans le monde, avec les questions qu'ils se posaient au monde à l'époque. Et cette encyclique sociale a été un déclic dans l'Église parce que on a fêté ses 50 ans, ses 100 ans, et il y a eu d'autres encycliques depuis. Et c'est à partir maintenant de cette encyclique qui s'appelait, alors je vous le dis, c'est pas pour jouer les intellectuels, mais pour que vous en entendiez parler, Rerum Novarum, c'est à partir de là, qu'il y a eu ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire comment être chrétien vivant dans cette société, pas à l'extérieur, mais dans la société telle qu'elle est, en portant le poids des choses de la société. Donc nous étions au Brésil, on va continuer après un petit peu à se promener, et nous allons écouter de la musique brésilienne que Marie-Josée nous a amenée.
Um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Mas que é bonito.
Bien, mais ce morceau musical faisait frétiller, faisait remuer un petit peu notre Émilie à nous, Émilie Martens. Et ça tombe bien, puisque l'heure du carillon aujourd'hui est consacrée à la congrégation de la Sainte Famille, une congrégation qui a connu son heure de gloire qui continue, mais il est vrai que chez nous, dans nos pays, il y a moins de vocations, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, comme cela a été dit très bien. Je voulais simplement demander à la mère supérieure, notre amie ici présente, Dominique, de bien vouloir nous préciser où en est actuellement la congrégation, tout simplement. Merci.
Oui, mais peut-être juste avant de répondre à la question, Marie-Josée pourrait dire un tout petit mot sur notre présence au Brésil, qui s'est ouverte. Marie-Josée va vous expliquer.
Bon, au début, au Brésil, on était dans cette école. Après, dans de grands, pour gagner la vie, il fallait créer quelque chose et les sœurs étaient enseignantes. Alors, on avait un grand collège à Recife, un autre à Goiânia, que c'était la zone de la canne à sucre. Ce n'est pas facile de vivre là parce qu'il y avait des patrons et des gens en submission, hein, avec des injustices. Et après, un peu plus loin, à João Pessoa aussi, un grand collège et une école d'infirmières aussi à João Pessoa. Voilà. Mais après, avec les événements et les changements de tout, maintenant, nous avons 8 communautés, quelques communautés à Recife, mais dans la périphérie, dans des quartiers très populaires. C'est le désir des papes, mais nous étions déjà là quand il a parlé d'aller en périphérie. Et après, on garde encore des collèges. Mais les évêques du Brésil, la conférence des évêques, ont demandé à des congrégations religieuses de partir en Amazonie, parce que c'est un autre pays, hein, où l'évangélisation laisse à désirer. Et les congrégations ont dit, mais nous sommes très pauvres pour envoyer tant de communautés en Amazonie. Alors, la conférence de religieuses, qui s'est liée à la conférence des évêques, se sont mis à réfléchir et elles ont dit, nous pouvons faire des communautés intercongrégations. Si la Sainte Famille et une autre congrégation se mettent ensemble, on va deux d'une congrégation avec une d'autre et on va former des communautés en Amazonie pour l'évangélisation et pour aider ces gens à se remettre debout, comme personne.
Parce que là se pose le problème des paysans sans terre qui sont exploités par des patrons et des gens sans morale.
Voilà, de tous côtés. Et en plus...
Mais avec beaucoup de religion, pas de morale, mais beaucoup de religion.
Oui, mais aussi pour garder un peu l'origine des Indiens qui sont là encore, ce sont nos origines. Et c'est comme ça que nous sommes partis, nous, la Sainte Famille, en Amazonie. D'abord, du côté de la Bolivie, dans la frontière, pour soutenir une communauté qui était en Bolivie. Et c'est le père évêque en français, le père Gérard Verdier.
Ah oui.
Voilà, nous étions avec lui dans cette communauté. Mais dans ces lieux-là, il y a déjà, c'est pas trop, comment on dit, très, très pauvre. Là, il y a la ville, il y a les écoles, il y a l'hôpital. Là, on a déjà quelque chose. Mais les sœurs ont resté là un bon moment. Mais maintenant, c'est un autre évêque, un évêque espagnol, qui s'appelle Jésus, et qui nous a demandé, nous sommes partis plus loin, dans la vraie Amazonie, là-haut, on appelle le Pará, c'est presque déjà en contact avec la Guyane française. Alors là, nous avons une communauté perdue dans la vraie forêt Amazonie. Il faut beaucoup de temps pour arriver là-bas. Il faut prendre un bateau et passer 12 heures sur le fleuve parce que l'eau monte et l'eau descend. Oui, Dominique voilà. Alors là, il y a une communauté et après au Maranhão, c'est un peu plus bas. Au Maranhão, c'est pas la grande Amazonie, mais c'est encore dans l'Amazonie. Et là aussi, nous avons une communauté. Et ce sont des communautés, par exemple, elles sont venues pour les chapitres, elles ont raconté un peu, il y a quelques-unes qui sont, comment on dit, en plein de risques, parce que elles dénoncent ce qu'elles veulent, des injustices par rapport à, aux enfants, par rapport aux femmes qui sont écrasées, battues. Et voilà, et elles sont en train de dénoncer, mais pas seules, avec d'autres, un groupe, un réseau, pour défendre, donner la vie là aux plus petits. Et ça, et tout ça, c'est venu un peu plus fort, parce que le Brésil, depuis qu'on a les conférences latino-américaines, nous sommes déjà dans la 5e conférence latino-américaine, et la dernière, c'était au Brésil, à Aparecida, c'est pour ça qu'on appelle les documents d'Aparecida. Et le titre de cette conférence, c'est juste, le titre, c'est « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ ». C'est de cette conférence latino-américaine qui est né ce titre « Disciples et missionnaires ».
Voilà, donc un petit mot quand même, parce que c'est peut-être un peu difficile pour nos personnes qui nous écoutent, là, sur CFM 90.2, c'est peut-être un peu difficile de comprendre. Les pays, donc l'Église est organisée, bien sûr, avec, il y a Rome, il y a des évêques. Les évêques, c'est au niveau de chaque diocèse, le diocèse c'est globalement un département pour la France. Mais les évêques d'un pays se réunissent en conférence d'évêques. Donc, ils ont des travaux communs pour un peu organiser la vie pastorale et l'annonce de l'Évangile dans leur pays en fonction des besoins et des réalités. Donc, ça, c'est vrai en France, c'est vrai aussi au Brésil. Et de la même manière, il y a une conférence des supérieurs religieux qui, parallèlement, fait son travail aussi. Et donc, ce que nous disait Sœur Marie-Josée, c'est que ces deux conférences ont réfléchi ensemble pour répondre à un besoin concret qui était l'évangélisation et mettre l'homme debout en Amazonie. Donc ça, c'est une chose. Elle parle d'une autre chose qui est la conférence latino-américaine. Le continent latino-américain a regroupé plusieurs conférences de chaque pays, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Chili et tout, pour se retrouver ensemble, le Brésil bien sûr, pour se retrouver ensemble et voir aussi les problèmes non plus à la dimension d'un seul pays, mais à la dimension du sous-continent américain, d'où la conférence latino-américaine. Vous voyez, vous comprenez un petit peu les affaires. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, c'est vrai que la dernière, on a été fort marqué par cela. Enfin, on l'est plus aujourd'hui encore, et c'est tant mieux avec le pape François. Donc, on a été fort marqué par les travaux de ces conférences latino-américaines, et notre évêque lui-même a choisi le titre « Disciple missionnaire ». Il ne l'a pas inventé, on l'avait entendu et reçu d'ailleurs, et c'est bien le mouvement dans lequel l'Église doit s'engager aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, on va revenir à la réalité de la congrégation aujourd'hui, ici et ailleurs. Alors Dominique, je te relaisse la parole, si tu veux bien.
Oui. Merci. Donc nous sommes une petite congrégation, puisque nous sommes 430 en tout, mais très étendue. Nous sommes répartis dans 4 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Donc nous avons des sœurs, pour ce qui concerne l'Europe, en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, et en Belgique. Italie et Belgique se réduisent à une communauté, mais elles sont présentes dans ces pays-là. Ensuite, nous sommes en Amérique latine, comme l'a dit Marie-Josée tout à l'heure, au Brésil et en Bolivie. Ensuite, en Asie, nous sommes au Proche-Orient, dont depuis très longtemps, la première fondation hors France, en 1894. Et puis, nous sommes depuis 2004, aux Philippines. Et j'ai oublié un continent, l'Afrique, oui. Et en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cela a été dit déjà tout à l'heure. Donc, suivant le pays où nous sommes, suivant le continent où nous sommes, les missions sont différentes. Mais le charisme de Sainte-Émilie, c'est toujours ce charisme de simplicité. Elle disait toujours, allons souvent à Nazareth pour y vivre dans cette intimité avec Dieu qui lui était si chère et pour y vivre cette cette proximité avec les pauvres. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut encore dire autre chose sur la présence de la congrégation aujourd'hui. C'est une présence qui s'adapte. Nous avons des institutions. Par exemple, en France, nous avons 26 ou 27 écoles Sainte-Famille. Et ce qui est, je dirais, un peu étrange, c'est qu'il n'y a aucune sœur dans ces écoles. Et pourquoi n'y en a-t-il pas? Parce que nous souffrons vraiment d'un manque de vocation. Mais nous voulons rester fidèles à cette vocation d'Émilie, qui a d'abord fondé la congrégation pour les écoles, et ensuite, et aussi pour répondre aux besoins des plus pauvres. Mais pour ne pas, j'allais dire pour rester fidèles, nous avons ce que l'Église catholique de France appelle la tutelle, c'est-à-dire nous avons au sein de notre congrégation une équipe, il faudrait dire, sous la responsabilité de la supérieure provinciale de France, qui suit les écoles, qui rencontre les équipes éducatives pour que dans les écoles se vive ce qu'avait souhaité Sainte-Émilie en fondant les écoles. Alors il y a aussi des présents de proximité. Là, il y a bien la proximité, mais d'une autre proximité. Des sœurs qui vivent au milieu des gens, des sœurs qui appartiennent à de nombreuses associations. Et pour l'Espagne, c'est un peu comme pour la France et comme l'Angleterre aussi. L'Angleterre, on peut le dire pour la Belgique et l'Italie. Il y a toujours, même si on n'est plus, entre guillemets, aux commandes de grandes institutions, il y a cette volonté d'être présente pour dans un service, dans une volonté de servir. Je vois par exemple en Angleterre, avec, je ne sais plus le nom, la commission des réfugiés fondée par les jésuites, c'est pas juste ce que je dis, c'est une association fondée par les jésuites pour accueillir les réfugiés. Les sœurs ont une maison qui ne servent pas, et là, elles accueillent des réfugiés. Pendant un certain temps, ce sont les jésuites qui ont la haute main, mais ils demandent la collaboration des congrégations. Voilà, une présence de proximité.
Voilà, donc on le voit bien, on parle aujourd'hui de mondialisation, c'est vrai pour ce qui est de la vie sociale en général, c'est vrai aussi pour ce qui est de la vie religieuse. La mondialisation de l'amour, espérons, et la mondialisation de l'engagement. Avant de passer à la dernière étape de notre parcours, à savoir aborder les festivités du 200e anniversaire, nous allons écouter un petit peu de musique. Dernière étape, un peu brève mais solennelle, nous allons parler des festivités du 200e anniversaire. Alors Dominique, dis-nous tout, ou presque.
Presque tout. Bon, les festivités vont démarrer le week-end du 19-20 septembre à Villefranche-de-Rouergue, à la Maison Mère, 30 rue Bory, et à la Collégiale. Samedi 19 septembre, à 18h30 aura lieu l'Eucharistie d'ouverture, la messe d'ouverture, avec Monseigneur François Fonlup, évêque de Rodez. Et le dimanche 20 septembre, à 10h30 à la collégiale, une messe au cours de laquelle auront lieu plusieurs professions. Séba, indienne, fera ses vœux perpétuels. Victorine Burkinabé, qui vit aux Philippines, renouvellera ses vœux, ainsi que sœur Juliette, ivoirienne, qui vit en Côte d'Ivoire, et sœur Clarisse, ivoirienne, qui vit au Sénégal. Elles renouvelleront leurs vœux le jour de l'ouverture du bicentenaire. Et ensuite, des célébrations auront lieu tout au long de l'année, célébrations ou rassemblements, mais il suffit de téléphoner à la maison mère pour avoir le programme.
Merci beaucoup. Alors, il y a eu une prière qui a été faite. Émilie va nous lire cette prière. Et puis, Bernard nous dira à la prochaine émission. Et puis, on vous dit à bientôt, donc. Et puis, on s'arrêtera après que Bernard ait annoncé la prochaine émission. À toi, Émilie.
Sainte Émilie, tu as choisi la Sainte Famille de Nazareth comme modèle. Aide-nous à imiter sa vie. À la suite de Jésus, accorde-nous l'audace des disciples. Comme Marie, donne-nous un cœur qui écoute, un cœur simple, ouvert et disponible. Comme Joseph, homme silencieux, debout dans sa foi, obtiens-nous la persévérance humble et confiante. Sainte Émilie, toi qui as dit, la plus grande de toutes les affaires, et pour ainsi dire l'unique, est d'aimer. Apprends-nous à ouvrir notre cœur aux appels et aux cris des hommes d'aujourd'hui. Aide-nous à nous engager au service de nos frères, en particulier des plus démunis. Puissions-nous ensemble témoigner de ce Dieu de tendresse révélé en Jésus-Christ et de cette immense espérance offerte à tous les hommes.
Merci Émilie. Alors Bernard.
Oui, alors la prochaine émission, je rappelle que nous avons une émission mensuelle qui est toujours la deuxième semaine du mois, le samedi de 10 à 11 et le dimanche qui suit de 11 à 12. Donc l'heure du carillon prochaine portera sur les migrants. C'est effectivement le grand problème d'aujourd'hui, mais qui va, hélas, durer pendant sûrement une période très longue, et il faut absolument parler, parce que c'est une honte ce qui se passe.
Merci à tous, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Merci. Au revoir. Merci. Thank you.